voilà, suite de l'émission d'Onde Noire, et nous avons le plaisir de retrouver Jean-Marc Lahérère. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, on avait pris l'habitude de vos chroniques la saison dernière, et nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver cette année. Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'année dernière, on avait dit de vous que vous étiez un grand dévoreur de livres et un spécialiste du roman noir, mais on n'avait jamais évoqué votre blog qui donne des nouvelles de la planète polar, on va dire, pratiquement toutes les 10 minutes. J'exagère un peu, mais c'est impressionnant le nombre de romans et de nouvelles que vous pouvez nous apporter. Alors, le nom du blog, s'il vous plaît ?
Ça s'appelle Actu du Noir.
Voilà, et vraiment à consulter régulièrement parce que plein de bonnes choses à lire et des bons conseils de lecture.
Merci.
Donc, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un livre d'Ernesto Maglio. Je ne sais pas si je prononce bien. Vous qui parlez espagnol ?
En espagnol, oui, mais comme c'est un argentin, on dit plutôt Ernesto Maglio. Mais
évidemment, il fallait que je me trompe.
Voilà.
Donc, heureusement, le titre est en français, L'aiguille dans la botte de foin, c'est traduit par Olivier Hamilton et c'est chez Rivage Noir. Alors, que se passe-t-il dans cette botte de foin ?
Alors, dans cette botte de foin, L'aiguille dans la botte de foin, en fait, c'est un cadavre retrouvé parmi des centaines de cadavres. Pourquoi ? Parce que l'action de ce roman se passe pendant la dictature de la junte de Videla, un moment de guerre sale où les militaires balançaient des cadavres partout dans la ville, dans le Rio de la Plata, un peu partout. Et finalement, tous ces cadavres, bien entendu, il était absolument impossible de faire une enquête dessus, puisqu'on savait très bien qui les avait tués, c'était les militaires. Et l'aiguille qui se trouve dans cette botte de foin, eh bien, c'est un cadavre qui est jeté avec deux autres. Alors il y a deux jeunes tués visiblement par les militaires, et juste à côté, on trouve le cadavre de quelqu'un qui est plus âgé, et qui visiblement n'a pas été tué ni au même moment ni au même endroit.
Voilà, et pas de la même façon aussi.
De la même façon. Et donc il y a un flic atypique qui s'appelle Lactano, le chien, il l'appelle, perro, qui est un flic qui broie du noir depuis que sa femme est morte, qui ne connaît plus que la douleur quand il se lève le matin, qui essaye de faire une chose quasiment impossible à cet endroit, c'est-à-dire de faire son boulot honnêtement, dans ce Buenos Aires en pleine guerre sale où c'est les militaires qui ont tout pouvoir.
Voilà, oui, je rappelle qu'on est en pleine dictature, là.
Voilà. Et ce troisième cadavre, différent des deux autres, puisqu'on ne lui interdit pas officiellement d'enquêter dessus, il décide de mener son enquête. Même s'il sait pertinemment que cette enquête ne peut lui apporter que des ennuis.
Oui, puisque comme vous dites, ce qui est impressionnant, c'est qu'il essaye vraiment de faire son boulot honnêtement de flic, quoi. Alors que on sait très bien que le pouvoir politique et militaire va passer sur tout, quoi.
Oui, exactement. Donc, alors ensuite, l'enquête, elle n'est pas primordiale dans l'affaire, puisque
on sait très vite.
Le lecteur, lui, suit en parallèle l'enquête et puis la vie de quelques personnages autour qui sont ces personnages qui vont amener à ce meurtre. Donc c'est pas ça l'important. L'important, c'est de rendre cette atmosphère d'une ville sous botte militaire, de rendre la peur quotidienne, la trouille permanente, mais en même temps la rage de voir qu'il y a toute cette impunité, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut strictement rien faire, que l'on soit flic, que l'on soit étudiant, que l'on soit médecin, scientifique, légiste, tout le monde a peur. Tout le monde a peur tout le temps et quasiment rien n'est possible.
C'est ça qui est extrêmement... Pardon. Excusez-moi.
Oui, c'est ça qui est très très bien rendu dans ce roman.
Voilà, moi ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce livre, c'est le fait que d'un côté, c'est pour moi, dans le roman noir, mais peut-être j'ai pas lu les autres, c'est un des premiers qui parle vraiment de cette période-là. Souvent, les romans noirs qui nous arrivent d'Amérique du Sud maintenant parlent plus des après-dictatures et des marques que ça a laissées.
C'est vrai qu'il y en a plus tôt. Alors, il y en avait un autre quand même. Il y en a eu un autre qui s'appelait Vladimir Ilitch contre les uniformes.
Oui. Ah oui, magnifique roman
de l'argentin Rollo Diez, qui a été obligé de partir au Mexique, et qui se passe au moment de la guerre sale aussi, qui avait été publié dans La Noire. Alors je ne sais pas s'il est très facile à trouver.
Non, ça ne doit pas être évident. Enfin, il y a toujours des bouquinistes et maintenant les
bibliothèques.
Les bibliothèques aussi.
Oui.
Mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'on voit, et il y a ces deux aspects donc de la vie de tous les jours, et puis quelques héros comme ça, des étudiants, des étudiantes qui essayent de lutter. On peut dire que ce sont des héros parce que de toute façon, on sait qu'ils vont perdre, quoi, de toute façon. Et peut-être que ce flic va tout perdre aussi parce que même de faire son boulot honnêtement, c'est déjà dangereux, quoi.
Oui. Oui. Alors, il met en scène non seulement ses perdants, ceux qui essayent, mais il réussit de très très bien le portrait de quelques pourris, oui, de quelques militaires frustrés.
Des petits chefs, quand même.
Il y a en particulier le portrait là, d'une espèce de commandant pervers, frustré, de sa femme qui est complètement folle, en fait. Et c'est un couple qui est complètement assommé par la religion, sa femme, par la bienséance. C'est assez affolant la façon dont il les décrit et comment il décrit, toutes les frustrations de ce bonhomme dans son ménage. Il s'en sert un peu le ferment de tout ce qu'il va faire subir aux autres derrière.
Ah ouais, pour faire souffrir les autres comme lui souffre dans son couple.
Exactement. Ouais. Alors, et puis, quand même, comme on est quand même en Argentine, il y a quelques échappées. Il y a quelques pages où on voit un peu l'amitié, un repas avec un ami.
Voilà, il y a un joli repas. Et puis, il y a une très jolie fille aussi, dont Perro, Lascano va tomber amoureux parce qu'elle ressemble tellement à la femme qu'il a perdue. Voilà. Ça aussi, il y a quelques jolies pages. Et oui, puis, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la façon dont Maro va faire parler ses personnages. On n'est ni en style direct ni en style indirect. Il y a vraiment une façon de donner les dialogues qui est très très particulière, un peu théâtrale d'ailleurs.
Oui, exact.
Et donc là, c'est en italique et apparemment dans la version originale, c'est aussi en italique. J'ai appris d'ailleurs que c'était un auteur de théâtre, l'écrivain. Donc c'est son premier roman, Rivage Noir.
Oui.
On nous en annonce une série, on l'espère.
Oui, on espère, quoi que vous verrez.
Voilà, on n'en dit pas plus.
Voilà.
Donc, puisqu'on est dans la littérature noire hispanisante, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots d'un recueil de 3 novellas, c'est pas des nouvelles, c'est pas des romans, des novellas parues sous le titre, dans un seul roman, parues sous le titre Dernière nouvelle de Nuela Duarte.
Voilà, c'est Dernière nouvelle de Nuela Duarte, c'est traduit par Claude Bleton et c'est chez Moisson Rouge. Alors en fait, il y a 6 novellas, écrite par 3 auteurs.
3 auteurs, oui, si je me trompais, c'est 3 auteurs. Pardon.
Voilà, 2 Espagnols qui sont José Manuel Fajardo, José Ovejero, et puis un Mexicain, Antonio Sarabia, qu'on ne connaît pas du tout en France, par contre, je crois. Antonio
Il n'a jamais été traduit, je crois.
Hein. Ouais, je ne crois pas. Je ne crois
Il me
pas.
Semble
et
pas.
Et donc, ces 3 écrivains, ils ont eu un jour une idée qui finalement est assez géniale dans sa simplicité, c'est de créer un personnage mythique à eux trois. Et ils sont arrivés très vite à la conclusion que pour faire un personnage mythique, il ne fallait pas lui donner la parole, il fallait que ce soit d'autres qui en parlent. Donc ils ont imaginé cette Nuela Duarte, qui est la fille d'un musicien cubain qui est parti au moment de la Révolution parce qu'il ne voulait pas rester, sous le Cuba castriste, et puis surtout parce qu'il était un peu une espèce d'artiste, on va dire, comme ça, qui n'a pas trop envie de travailler, qui a envie d'une vie simple. Et ça, c'est sa fille, qui est devenue photographe de presse. Alors, c'est une femme libre, de la Duarte, souvent très dure, souvent distante. Et il y a donc 6 personnages qui la racontent au travers des fois où ils l'ont croisée. Alors, c'est très varié. C'est varié dans l'écriture, c'est varié dans les thématiques, c'est varié dans le rapport qu'ils ont avec elle, puisqu'il y a une femme jalouse, qui s'aperçoit à la mort de son mari qu'il avait une affaire avec elle. Il y a un amoureux qui est sur le point de se faire larguer, qui le sait. Il y a un ancien compagnon de son père qui l'appelle au secours, mais qui essaye de l'arnaquer, et c'est lui qui va se faire avoir. Il y a une star du rock qui lui doit une seconde jeunesse. Et pour finir, il y a un mercenaire qui devait l'abattre, mais qui finalement ne l'abattra pas, bien entendu. Et au travers de ces 6 nouvelles, qui sont vraiment très différentes de l'une à l'autre, il y en a qui flirtent presque avec le fantastique, avec du Cortázar ou des choses comme ça, et bien le portrait de Nuela Duarte se dessine petit à petit, par petites touches. Mmh. Et finalement, avec 3 auteurs très différents, avec 6 nouvelles très différentes, il y a une grande cohérence de l'ensemble, une cohérence qui est due à cette femme qui leur a servi de point commun. C'est très très réussi.
C'est étonnant parce que, à vous entendre parler, on a l'impression que ça tord le cou un petit peu à un des procédés les plus simples dans le Houdini, c'est-à-dire dans le roman policier procédural classique, c'est-à-dire d'enquêter et de prendre des témoignages. C'est un peu des témoignages, mais il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de...
Non, alors Certaines nouvelles sont policières, parce que quelquefois il y a une arnaque, ou il y a un mort, ou il faut découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours d'une personne. Pas toutes. Et effectivement, la cohérence n'est que sur le personnage. C'est pas tous ces six personnes qui la voient n'ont pas un but commun. Il y a même un sniper, par exemple, à Sarajevo, qui l'a dans son viseur plusieurs fois, et puis qui est fourrier lui rapporte à voir. Et cette cohérence, elle paraissait difficile à atteindre au début.
C'était pas évident, oui. C'était un pari difficile. Et apparemment, donc, pari réussi.
Pari tenu, oui.
Voilà, alors on va rappeler le titre de ce recueil de nouvelles. Donc il y en a six, je m'étais trompée au début. Ça s'appelle « Dernières nouvelles » de Noëlla Duarte. Comme ce sont des auteurs d'origine de langue espagnole, je vais vous laisser dire leur nom. Merci.
Alors,
Jean-Marc.
Je vais dire l'accent. Il y a José Manuel Fajardo, José Ovejero et Antonio Sarabia.
Voilà, et ce recueil est paru aux éditions Moisson Rouge, qui nous offre de temps en temps de bien belles découvertes. D'ailleurs, c'était leur premier livre de José Orivero, ça s'appelait « Des vies parallèles ».
Exact.
Eh bien, Jean-Marc, à bientôt et merci beaucoup.
Et on va se quitter avec.
Merci à vous, au revoir.
Et on va se quitter avec le petit jingle qui sert de jingle aux chroniques de Jean-Marc, une version de Mustang Sally, mais ce coup-ci par les Rascals.
Put your flat feet on the ground.
Voilà, Mustang Sally, une version différente. Eh bien, nous allons passer de Rivage Noir en Rivage Noir, puisque c'est dans Rivage Noir.
Dans la collection Rivage Noir, donc en poche, un roman de James Carlos Blake qui s'appelle Un monde de voleurs, qui vaut 9 euros et qui a été traduit par Emmanuel Payet. En général, James Carlos Blake écrit des romans qu'on pourrait apparenter à des westerns. Il y avait Les Amis de Pancho Villa, L'Homme au pistolet, Crépuscule sanglant. Pour celui-là, il s'avance un petit peu dans le temps, toujours aux États-Unis. On vient de voter le 18e amendement. Je vous rappelle, c'est celui qui a établi la prohibition. Et on est donc dans les États-Unis, mais dans le Sud, toujours, généralement, et c'est là. D'abord en Louisiane, puis tout au long du roman, on va se aller vers le Mexique et la côte ouest. Le héros, c'est Sammy Loomis. Il aurait pu avoir un avenir prometteur, car il est plutôt bon à l'école, mais voilà, il admire trop ses deux oncles, et ses deux oncles sont des petits braqueurs. Et plutôt que de devenir avocat, il veut devenir comme eux, braqueur. Évidemment, il va se faire arrêter assez vite, à la suite d'une attaque de banque, il se retrouve en prison. Là, en prison, il tue le fils d'un shérif, et hop, direction le bagne, d'où bien sûr il va s'échapper pour rejoindre ses oncles. Et là, ça commence la grande aventure. De braquage en planque, de petits coups en braquage de banque en automobile, parce que c'est le début de l'automobile. Là, si vous voyez, la Ford
T. On se souvient d'Al Capone avec...
Voilà. Donc il y a les Ford T, donc évidemment, on fait les braquages en automobile et il y a des courses-poursuites en automobile, pas en cheval comme à l'époque de John Wayne. De loin en loin, intercalé dans les chapitres qui racontent les aventures de Loomis et ses oncles, on voit le shérif teigneux qui veut absolument venger son fils et qui poursuit les trois hommes. Et dans ce roman, il y a quoi ? Il y a des bars, il y a des bootleggers, forcément, c'est la prohibition. On va chercher de l'alcool dans les coins perdus. Dans les bars, il y a des filles. Loomis, lui, il est beau, donc il a forcément beaucoup de succès auprès des filles. Dans les bars, j'ai dit qu'il y avait des bars, des bootleggers. C'est le début du jazz, il y a de la musique. Voilà, c'est vraiment... J'essaie juste de parler de l'ambiance du roman.
Ça a l'air très foisonnant.
C'est foisonnant, c'est un grand roman. C'est presque un road movie, puisqu'en fait, ils sont tout le temps en train de s'échapper. Il est fait allusion à Thomas McCarthy et à Sam Peckinpah dans l'exergue.
Cormac McCarthy.
Cormac McCarthy. Donc Sam Peckinpah dans les citations en exergue. Peckinpah, ça paraît complètement évident qu'au McCarthy, j'en ai pas lu assez pour voir le rapport. Il y a Shakespeare aussi, mais alors là, carrément, ça me paraît un peu bizarre.
Mais il y a longtemps que tu n'as pas lu du Shakespeare,
voilà,
certainement.
C'est un espèce de road movie, un roman initiatique, et aussi, en fait, une assez belle transcription de la vie aux États-Unis dans les années 20, dans le sud des États-Unis, disons.
Alors, juste une petite question, parce qu'il semble, à la façon dont tu décris ce livre, que c'est un roman épique qui ne verse pas trop dans le noir, quand même. Une grande... Ça va tambour battant.
Voilà, ça va tambour battant. Bon, mais ça part du roman initiatique, du road movie, puis ça, c'est quand même un peu tragique, disons.
Alors, je ne sais plus si tu as cité le nom du traducteur.
Oui, Emmanuel Payet. Le roman s'appelle Un monde de voleurs et l'auteur s'appelle James Carlos Blake.
Et voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Bye bye, à bientôt.
À la prochaine fois.
Sur Agora FM. Bon appétit à tous.